36 heures de visite et de nombreux entretiens. Marie Guévenoux est arrivée hier soir en Nouvelle-Calédonie. Nous y revenons dès le début de ce journal. Le gouvernement, face à la crise, a pris des arrêtés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement dans le secteur public. Il prévoit aussi un régime dérogatoire sur la délivrance des autorisations d'urbanisme pour aider la reconstruction. Les alternants du CFA retrouvent les cours après l'incendie de leur lieu de formation pendant les émeutes. La Chambre des métiers a réagi en urgence. La CCI et plusieurs entreprises ont mis leurs locaux à disposition des alternants. À l'étranger, nouveau risque d'escalade militaire au Proche-Orient. Plusieurs pays de la région promettent de riposter après l'attaque attribuée à Israël qui a coûté la vie au chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Et puis la page sport avec les JO, une belle journée française à Paris, 8 médailles dont 3 en or. De son côté, Maxime Grousset a terminé 5e de la finale du 100 mètres nage libre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra avec les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Comme chaque semaine, notez cette semaine que nous reviendrons sur le rôle des banques pendant cette période difficile que connaît la Nouvelle-Calédonie. Nous serons en compagnie d'Éric Viard, le directeur général délégué de la BCI, et de Thomas de Gubernatis, le directeur de l'AFD. Rendez-vous donc pour les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu dès la fin de cette édition. Marie Guévenoux a donc entamé hier soir une visite de 36 heures en Nouvelle-Calédonie. La ministre déléguée chargée des Outre-mer est venue à la demande du président de la République et dans le cadre de l'exécution des affaires courantes, puisque le gouvernement est démissionnaire. Selon son ordre de mission, Marie Guévenoux vient en Nouvelle-Calédonie aux côtés des agents engagés pour rétablir l'ordre sur les territoires et pour répondre à la crise que connaît la Calédonie depuis plusieurs semaines. Dès hier soir, elle s'est rendue au commissariat central de Nouméa, où elle a longuement discuté avec les policiers, les gendarmes et agents de sécurité civile, dont elle a salué l'engagement exemplaire ces dernières semaines. Un signe, nous a-t-elle dit, que malgré la situation politique en métropole, le dossier calédonien continue d'être traité quotidiennement.
Les forces de sécurité intérieure et de sécurité civile font un travail honnêtement extrêmement engagé depuis de nombreuses semaines pour établir la situation, avec des résultats qui, si on préférait qu'ils soient meilleurs, sont néanmoins positifs, puisque la situation s'améliore, avec un temps long, j'en ai bien conscience, mais s'améliore néanmoins. Et puis aussi poursuivre les discussions avec les acteurs économiques que nous suivons avec Bruno Le Maire par visio depuis le début de la crise, où on a des points de contact extrêmement réguliers avec les acteurs économiques, et puis comme nous le faisons aussi depuis le début de la crise avec les acteurs politiques.
Comment le dialogue qui a été rompu ces dernières semaines peut-il être rétabli selon vous ?
Alors c'est pas à moi de le dire, moi je viens ici vraiment en posture d'écoute parce que la situation politique particulière auquel on est confronté en ce moment en France fait que je peux pas faire d'annonces ou de déclarations qui seraient au-delà de la situation dans laquelle je suis et que je peux me permettre. Après je pense que la clé elle repose évidemment sur l'État mais elle repose aussi sur les interlocuteurs politiques locaux. Et je pense qu'il faut, s'il y a un message que je peux donner, c'est celui que ici la population civile vit en plein cœur les émeutes et leurs impacts, impacts de sécurité, vous l'avez dit, mais des impacts aussi économiques. La population ressent ça très durement. Il faut maintenant qu'on trouve les moyens, à la fois les acteurs politiques locaux, puis l'État sera là pour, dans l'impartialité qui doit être le sien, aider à ça. Faire en sorte qu'on retrouve les voies d'un destin commun.
Marie Guévenoux, interrogée par Gilles Ménage, et avant cette rencontre avec les forces de l'ordre, la ministre déléguée aux Outre-mer s'est entretenue longuement avec la présidente de la province sud, Sonia Baquès, qui estime que cette visite doit permettre à la ministre de ressentir la préoccupation principale des Calédoniens, qui reste la sécurité. Une visite utile donc, même si pour Sonia Baquès, la réalité des Calédoniens n'est pas toujours perçue à Paris avec exactitude.
Ce qui était très important, c'est la question de la sécurité, la question de notamment du Mont-d'Or et du fait que on peut pas continuer à supporter 12 semaines après d'être tenu en échec par 35 terroristes qui sont là-bas. Et je l'ai dit à la ministre, la France doit reprendre la main. Ce que je comprends, c'est qu'il y a malheureusement un décalage entre la perception à Paris et ce qui se passe réellement à Nouméa. Donc je pense que c'était important qu'elle vienne ici pour mesurer l'ampleur de la gravité de la situation. Je pense qu'elle est là pour ça, elle voit tout le monde sur les deux jours de sa présence. Maintenant, il faut que ça se transforme concrètement parce que la Calédonie ne peut plus attendre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une démarche politique qui est engagée au mois de septembre. Mais d'ici là, si on n'a pas d'aide concrète sur la question du Mont d'Or, sur la question économique, sur la question sanitaire, la Nouvelle-Calédonie aura du mal à se relever. C'est toute la difficulté de notre situation, c'est que nous, on vit une situation dramatique et malheureusement dans un contexte où elle est ministre d'un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes, ce qui lui donne assez peu de marge de manœuvre. Mais il y a une vraie volonté, sinon elle ne serait pas venue, de continuer à accompagner la Nouvelle-Calédonie à la demande du président de la République.
Sonia Backès, après sa rencontre hier soir avec Marie Guévenoux. D'autre part, des forces supplémentaires envoyées en Nouvelle-Calédonie après les Jeux Olympiques et le versement dès le mois de septembre de la totalité de la dotation de l'État aux communes. Ce sont les principales annonces faites par la ministre ce matin lors de sa rencontre avec les présidents des associations de maires. De leur côté, ils lui ont surtout parlé du rétablissement de l'ordre public, nous a dit Pascal Vittori, le maire de Bouloux-Paris et président de l'Association française des maires.
La première chose qu'on lui a demandé, c'est le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité et puis de la possibilité de circuler pour les Calédoniens. Donc elle nous a confirmé que des forces supplémentaires arriveraient après les Jeux Olympiques en Nouvelle-Calédonie et que donc ça servirait effectivement à poursuivre le rétablissement de l'ordre public. Un deuxième point, l'urgence financière pour les communes qui sont en grande difficulté de trésorerie. Et là, elle s'est engagée à ce que la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État aux communes, la totalité de cette dotation soit versée au mois de septembre et qu'on n'attende pas la fin de l'année. Donc ça c'est important parce que le mois de septembre c'est la date à partir de laquelle les communes vont commencer à être très en difficulté et donc on espère que ça soulagera un petit peu nos collectivités. Et puis enfin la troisième chose c'est qu'elle a évoqué des discussions sur l'avenir et la nécessité que chaque camp, le camp indépendantiste de son côté et le camp loyaliste de son côté, soit uni pour pouvoir entamer des discussions.
Le président de l'Association des maires indépendantistes et maire de Puebo, Florentin Dedane, participait également à cette rencontre avec Marie Guévenoux et ils ont parlé d'une même voix, déclare Pascal Vittori.
On a parlé d'une seule voix. La seule chose, c'est que lui, sa commune se situe sur la côte Est et qu'on sait que les communes de la côte Est sont très en difficulté. Il y a encore beaucoup de routes barrées, beaucoup de difficultés d'approvisionnement. Et comme je dis régulièrement, moi je pensais que ce serait plus difficile pour les maires loyalistes et j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les communes indépendantistes, en tout cas celles de la côte Est, sont encore plus touchées et encore plus en difficulté.
En raison des divisions que l'on constate dans le monde indépendantiste.
Des grandes divisions qu'on constate dans le monde indépendantiste, mais d'une manière générale dans le monde kanak.
Des propos recueillis par Elisabeth Noir, Alcide Ponga, le maire de Kouaoua, Florence Roland, le maire de La Foy, et Wilfried Weiss, le maire de Koumak, était également présent pour cet échange avec la ministre en charge des Outre-mer, qui a poursuivi sa matinée par un entretien avec le président du gouvernement, Louis Mapou. Elle rencontre en ce moment les maires de l'agglomération, puis s'entretiendra avec les représentants du monde économique. Cet après-midi, Marie Guévenoux consacre son après-midi aux entretiens avec les groupes politiques du Congrès, les loyalistes, puis le Rassemblement Calédonie Ensemble, le groupe UCF-LNKS et Nationaliste, le groupe UNI et enfin l'Éveil Océanien. Marie Guévenoux terminera cette visite demain matin après un entretien avec le président du Congrès, Roquoy Mitan.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous surtout des réponses de la part de Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer? Si c'est dans le domaine de l'ordre public, vous tapez 1. Si c'est dans le secteur économique, vous tapez 2. Si c'est sur la question de l'avenir institutionnel, vous tapez 3 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier. 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent craindre une dégradation à moyen terme du niveau sanitaire de la Nouvelle-Calédonie en raison du départ de nombreux médecins. Ils sont 13% à ne pas partager cette crainte. 11h39, une première pause. Dans un instant, nous verrons ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébig. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'instauration d'un jour de carence dans le secteur public et la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements des agents publics, ce sont les objets de deux avant-projets de loi du pays adoptés hier par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
L'objectif de ces mesures, c'est de permettre à la Nouvelle-Calédonie de mieux maîtriser ses dépenses de fonctionnement en cette période de crise. Le gouvernement fait le constat que la situation budgétaire et financière de la très grande majorité des employeurs publics est largement détériorée en raison de la situation insurrectionnelle. Il propose en conséquence l'adoption de certaines mesures de rigueur budgétaire pour contenir les dépenses relatives à la masse salariale. L'avant-projet de loi instaurant un jour de carence pourrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Il concernerait le premier jour d'absence d'un agent pour raison médicale et ce, à compter de la troisième absence prise dans l'année civile. Cette mesure s'applique en métropole depuis 2018. Elle aurait généré une économie annuelle d'environ 164 millions d'euros, soit près de 20 milliards de francs CFP. Les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, bénéficient d'un dispositif d'avancement ou d'une révalorisation de rémunération qui se fait en fonction de l'ancienneté et cela aussi pour être suspendu exceptionnellement.
La seconde mesure concerne la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements des agents publics pour réduire le coût de la masse salariale et générer une économie au profit des employeurs publics. Le texte propose de geler temporairement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 le décompte de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon. Cette mesure représenterait pour la collectivité Nouvelle-Calédonie une économie d'au moins 100 millions de francs sur la période concernée. Le gouvernement a également arrêté le projet de délibération qui concerne les mesures exceptionnelles en faveur de la CLR, la Caisse locale de retraite, de manière à assurer le versement des pensions pour les mois à venir. Il a également arrêté un projet de délibération du Congrès qui prévoit des mesures exceptionnelles en matière d'autorisation d'urbanisme pour permettre la reconstruction des ouvrages, construction, aménagement et installation dégradées ou détruites du fait des troubles à l'ordre public survenus entre le 13 mai et le 12 septembre 2024, Elisabeth.
Pour le gouvernement, il est primordial de permettre la reprise des activités détruites et d'encourager la relance du BTP. Le projet de délibération vise donc à faciliter le relèvement des communes affectées par ces destructions et dégradations. Il propose un régime dérogatoire sur la délivrance des autorisations d'urbanisme pour la réfection et la reconstruction à l'identique des édifices sinistrés, tout en donnant la possibilité de mieux bâtir et plus durablement. Il s'agit en fait de réduire les délais d'instruction lorsque la construction initiale avait obtenu une autorisation d'urbanisme. La reconstruction fait alors uniquement l'objet d'une déclaration préalable et les travaux peuvent démarrer dans un délai d'un mois.
Et de son côté, la Fédé interpelle l'État sur sa responsabilité civile en matière de réparation des dégâts dus aux émeutes. La semaine dernière, le syndicat a saisi par une lettre le président de la République et le haut-commissaire. Hier, une rencontre s'est déroulée entre les représentants du syndicat et le secrétaire général du haut-commissariat, Stanislas Alfonsi. Entrevue qui n'a pas porté ses fruits, estime Steve Territeaou, le secrétaire général de la Fédé.
Ils restent sur leur position en nous invitant à nous rapprocher des juridictions administratives pour faire valoir nos doléances. Sauf qu'aujourd'hui, l'urgence de la situation ne nous permet pas d'attendre ce délai-là. Donc on réitère notre demande sur la prise en charge de la réparation des dégâts uniquement dans le cadre de l'application de l'article 211-10 du Code de la sécurité intérieure et de la compétence régalienne qui est la sienne. Donc aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de la prise en charge des dégâts matériels qui ont été causés à l'issue des émeutes, c'est également de venir en substitution des recettes fiscales perdues par la Nouvelle-Calédonie qui avoisinent aujourd'hui plus de 12 milliards. Donc il y a urgence, on estime que sa responsabilité civile est engagée et on demande à ce qu'il répare ce préjudice.
Plus d'une cinquantaine de membres du syndicat manifestent en ce moment devant le centre administratif du Haut-Commissariat et demandent être reçus par le Haut-Commissaire pour poursuivre les discussions. Et puis c'est Thomas Chollet, membre du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie, qui était notre invité ce matin à 7h30. Les assureurs sont évidemment très sollicités en ce moment et nous sommes d'abord revenus avec lui sur le bilan déclaré des émeutes qui s'élève pour l'instant à 3600 sinistres.
Sur ces 3500 sinistres, il y en a 1600 qui concernent les entreprises. Donc on a vu un chiffre tourner 800 à 900 entreprises qui ont été impactées. Et puis le reste, ce sont les sinistres des particuliers, donc les automobiles avec presque 1200 automobiles qui ont été partiellement ou totalement détruites ou incendiées. Et puis les habitations, on a plus de 500 habitations qui ont été touchées, alors aussi partiellement et pour certaines totalement détruites, avec des familles qui se retrouvent du jour au lendemain à la porte, avec des enfants aussi. L'ensemble des dommages aujourd'hui évalués s'élève à 130 milliards. Alors 130 milliards, c'est beaucoup, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Pour se rendre compte de ce que c'est, 130 milliards, c'est 10 ans de chiffre d'affaires, à peu près. Donc, je le dis, en deux mois, les assureurs vont devoir payer l'équivalent de 8 à 12 ans de chiffre d'affaires. Si on parle en résultat, les assureurs vont devoir payer sur ces deux mois l'équivalent de 30 à 40 ans de résultats.
Les assureurs calédoniens sont dans leur grande majorité adossés à des compagnies internationales qui ont les reins solides et qui ont donc versé du cash à leurs filiales pour qu'elles puissent assumer le règlement de ces nombreux sinistres. Des experts sont aussi venus en renfort pour accélérer notamment la rédaction des rapports qui permettent de verser des acomptes. Reste la question de la clause émeute qui a conduit le ministre de l'économie Bruno Le Maire à demander une certaine bienveillance, message entendu par les assureurs, mais qui sont aussi tenus par des règles, a rappelé Thomas Cholet.
Entre l'assureur et l'assuré, il y a un contrat d'assurance qui est un contrat commercial de droit privé. Et l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires de droit privé que l'assureur et son client peuvent avoir. Sur un contrat d'assurance, c'est très simple, il y a trois cas. Il y a le cas où c'est explicitement couvert, et là, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, on couvre. Il y a le cas où c'est explicitement exclu, c'est-à-dire c'est écrit noir sur blanc, je ne couvre pas tel événement, et là, bah, on applique le contrat. Et puis, il y a le milieu, qu'on essaye de réduire au maximum, où bah, ce n'est pas exactement défini, et donc là, ça dépend de la lecture qu'on va faire. Le conseil que je pourrais donner, c'est le particulier ou le professionnel qui a été impacté et qui ne comprend pas ou qui n'est pas d'accord avec la position d'un assureur, il y a des experts d'assurés qui viennent aussi aider les sinistrés et les assurés. Et si jamais estime qu'il peut y avoir une interprétation différente et justifiée, du coup, aller voir l'assureur en disant bah non, j'ai une autre lecture de mon contrat, discutons-en.
Thomas Cholet, membre du COSODA, le comité des sociétés d'assurance de Nouvelle-Calédonie. Il était donc ce matin notre invité à 7h30. Vous pouvez retrouver cet entretien en audio et vidéo sur notre site internet. Les locaux du centre de formation des apprentis avaient été presque entièrement détruits au cours des émeutes, mais depuis lundi, un tiers des alternants a pu enfin reprendre sa formation. Il s'agit des alternants en métiers de coiffure, esthétique et boucherie. Ils sont accueillis de manière temporaire à la CCI. Ce matin, un temps d'échange était organisé entre les apprentis et les représentants des différentes instances. Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, était présente et elle a rappelé à cette occasion, surtout elle les a remerciés, les représentants de la CCI et les entreprises, mais aussi les apprentis.
Je voudrais, à travers votre micro, remercier le président de la CCI et toutes ses équipes qui ont bien voulu nous mettre à disposition pendant une certaine durée des salles pour que l'on puisse faire nos cours de maths français. On a aussi donc les entreprises qui nous accueillent avec leur plateau technique, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, il ne nous est pas possible de remettre en place tous nos plateaux techniques. Donc là, c'est une première reprise avec un tiers des alternants. L'objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer nos jeunes et d'entendre aussi les difficultés qu'ils ont traversées pendant toute cette période. Certains ont perdu leur entreprise, d'autres ont vécu dans leur quartier de grandes difficultés. Donc on est là pour les encourager, pour les accompagner, pour qu'ils puissent s'insérer convenablement dans notre société.
249 alternants ont pu conserver ou retrouver un contrat d'alternance. Ils étaient 279 avant la crise. Ce matin, ils attendaient particulièrement la reprise des cours. Parmi eux, Yolina, apprentie en deuxième année de CAP coiffure.
Les événements ont éclaté. Moi, je ne pouvais pas descendre parce que j'habite sur le Mont d'Or. Et moi, ça m'a un peu perturbée au niveau de mon travail parce que c'est les examens cette année. Et je me suis un peu perdue. Mais voilà, quoi, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la volonté, la force pour continuer, pour espérer que le pays un peu reprenne le cours normal. Cette semaine, j'étais très contente de reprendre l'école. Déjà, lundi, on avait pratique dans un salon à Harmonie. Après, de mardi au vendredi, on est ici à la CCI. Et remercier tous ceux qui se sont démêlés pour nous, pour pouvoir arriver jusqu'à nos diplômes, quoi.
D'ici 2 à 3 semaines, les apprentis des métiers de l'alimentation, de l'automobile et les métiers rares reprendront aussi les cours. En ce qui concerne les métiers du bâtiment, ils seront les derniers à reprendre les enseignements d'ici un peu plus d'un mois. En bref, notez que le foyer Bethany ferme ses portes aujourd'hui. Sont concernées les structures d'entraide sociale de Trianon et du centre-ville. Le foyer accueillait des femmes en précarité depuis des années, mais faute de financement suffisant, la structure ne peut plus assurer le bon fonctionnement. Le foyer Bethany employait 11 salariés et accueillait en moyenne 80 personnes en situation de précarité. Et puis, comment relancer le tourisme en Calédonie? Pendant les émeutes, les prestataires touristiques ont dans l'ensemble été peu touchés par les destructions matérielles, mais la crise économique inquiète le secteur, Liana Colombo.
Oui, actuellement, très peu de visiteurs internationaux et locaux se risquent à visiter le territoire qui est classé comme étant une zone à risque depuis mai dernier. À court terme, un soutien est proposé aux structures touristiques, mais il faut aussi penser à relancer le secteur, explique Philippe Artigue, directeur marketing et communication à Nouvelle-Calédonie Tourisme.
On a mis en place une stratégie de relance en 5 phases, qui, à chaque fois, en fait, suivent l'évolution de la situation. Donc, on est sorti de la gestion de crise pure. Là, maintenant, on est dans une phase d'apaisement. On reprend tranquillement le dialogue avec les voyageurs et les voyagistes. On essaye de reprendre contact. Septembre, on sera dans une phase de rassurance. On va activer pendant 2 mois. Vraiment, on va essayer de valoriser les prestataires et les quelques touristes qu'on a actuellement pour montrer que malgré les difficultés, on fait du tourisme en Nouvelle-Calédonie, que c'est possible, ça avance. Mais c'est que si en octobre ou novembre, les destinations arrêtent de nous classer comme zone à risque, parce que la situation se sera réellement apaisée, on pourra lancer des vraies campagnes de vente avec l'objectif de réattirer les touristes en nombre dès décembre.
Tous les mois, une enquête de Nouvelle-Calédonie Tourisme est réalisée auprès de tour opérateurs et voyagistes à l'étranger pour connaître l'indice de confiance. La dernière enquête révèle que 32% des sondés sont confiants dans l'idée de reproposer la Calédonie comme destination. 15% se montrent sceptiques et 53% sont indécis.
On parlera des JO tout à l'heure dans la page sport. Mais à l'occasion de ces Jeux Olympiques, le groupe scolaire Alphonse Dillissinger de Dumbéa a fêté le sport ce matin, Léo Fichou.
Et oui, à défaut d'avoir pu accueillir la flamme olympique comme le corps enseignant le souhaitait, l'équipe a organisé un événement sportif en lien avec les Jeux Olympiques. C'est l'occasion de renforcer la solidarité et la cohésion entre les élèves, notamment avec les nouveaux venus du groupe scolaire Louise de Grélan. Les élèves qui sont accueillis au groupe scolaire d'Auteuil depuis l'incendie il y a quelques semaines de leur école. Mais le principal objectif pour Christelle Roumagne, c'est de transmettre les valeurs de l'olympisme dès le plus jeune âge. On écoute la directrice de l'école.
Ah, c'est merveilleux, et d'ailleurs c'est la deuxième édition. La première a eu lieu au mois de mars, le 8 mars, et les enfants avaient hâte d'ailleurs de recommencer l'événement. On accueille également les élèves de l'école Louise de Grélan qui sont heureux aujourd'hui de participer à cet événement avec nous dans la joie, la bonne humeur et surtout la cohésion. Et surtout le respect, humilité et puis partage. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir, je pense, de cette matinée.
Des sportifs calédoniens comme Angelo François Elossier, Tito Ampuyo ou encore Laurent Ganet sont venus rencontrer les enfants. Le champion olympique de vitesse en cyclisme sur piste à Sydney a fait passer un message simple aux petits, croire en ses rêves.
Bah écoutez, là on est plus en observation, on est plus là pour ce qu'on représente dans le sport. Voilà. Donc que rien n'est inaccessible et que si on se donne les moyens, on peut y arriver. On apporte surtout du rêve. Et le rêve fait partie de la vie, et c'est ce qui fait avancer dans la vie. Quand je vous parle de rêve, je suis passé par là moi aussi. J'ai trouvé mon rêve en regardant les Jeux Olympiques de 84. Et c'est là que j'ai découvert la piste, et je me suis dit, un jour, peut-être que je serai pistard. Et finalement, j'y suis arrivé.
Des plus petits aux plus grands, il y en avait pour tous les goûts, et au final, tous les élèves se sont amusés. L'objectif est donc atteint pour les enseignants, mais parmi les enfants, peut-être que certains ont trouvé une vocation. Écoutez.
Le premier atelier, on a fait du VTT. Et maintenant, on fait du saut en longueur.
Bah, on a fait du basket, on a fait du handball. Bah, là, on est en train de faire l'arc et on a fait du golf.
Moi, j'ai bien aimé le tennis et le saut en longueur parce que vraiment, ça améliore notre course et j'aime bien.
J'ai préféré le basket parce que c'était amusant et aussi le handball.
Moi, j'ai préféré le tir à l'arc parce que c'est très amusant.
Ce que j'ai adoré le plus, c'est le tennis. Ça sert à motiver le bras.
Ben, j'ai aimé faire un match de handball et c'était bien.
Une matinée qui a mobilisé toutes les classes du groupe scolaire de la petite section jusqu'au CM2.
11h54, dans un instant, nous nous intéresserons à l'essentiel de ce qui fait l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Baudin. Et on commence par l'actualité à l'étranger avec une nouvelle crainte d'un embrasement au Proche-Orient. Hier, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué par une frappe sur son lieu de résidence à Téhéran, en Iran, frappe attribuée à Israël. Les Israéliens qui ont également tué un cadre du Hezbollah à Beyrouth, cette fois-ci un cadre considéré comme le responsable du tir de roquette sur un village du Golan qui a causé la mort de 12 enfants et adolescents. Dans une allocution, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité des coups portés aux ennemis d'Israël et il promet de poursuivre son action.
Nous n'allons pas nous taire et nous trouverons toutes les personnes responsables. Ceux qui tuent nos citoyens, nos enfants, tous ceux qui touchent Israël seront responsables. Nous aurons encore des journées compliquées. Depuis l'attaque à Beyrouth, nous sommes prêts face à tous les scénarios et à toutes les menaces. Citoyens d'Israël, dans les premiers jours de la guerre, j'avais dit que cela prendrait du temps et qu'il faudrait de la patience pour tenir. Toutes les semaines, on me dit, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, mettez fin à cette guerre. Et je ne me suis pas soumis à ces injonctions, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur.
Les actions israéliennes font réagir dans la région. L'Iran a décrété 3 jours de deuil après la mort d'Ismaël Haniyeh et promet un châtiment à Israël, tout comme la Syrie. Faut-il donc craindre une escalade massive de la riposte ? Geoffrey Granger pour Europe 1.
Pas vraiment, si les actions ciblées d'Israël à l'encontre du Hamas et du Hezbollah libanais entraînent beaucoup de réactions. Pour David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, les différents partis sont totalement contre un embrasement régional.
Les Américains ne veulent pas d'un élargissement qui impliquerait potentiellement un engrenage avec l'Iran. L'Iran ne souhaite pas non plus un élargissement. C'est le paradoxe. Aucun des acteurs principaux ne souhaite un élargissement. Vous avez vu le silence de Bachar al-Assad. Il n'a pas du tout envie d'être aspiré dans la tourmente régionale.
En revanche, si cet élargissement semble peu probable, il ne serait pas impossible, selon David Rigoulet-Rose.
Tout le monde est plus ou moins contraint. À la fois contraint de réagir et pas trop. C'est ce que j'appelle le syndrome du jusqu'où aller trop loin. Le problème, c'est les mauvais calculs. Et c'est l'affaire du Golan, d'ailleurs. Vraisemblablement, c'est le résultat d'un mauvais calcul. Alors, soit de décision de tir, soit de ciblage, qui fait qu'un dérapage est susceptible d'élargir les théâtres, avec le Liban, justement.
Pour rappel, dans le Golan, 12 enfants israéliens ont été tués à cause d'une frappe imputée au Hezbollah libanais. Selon certains experts, c'est sur ce front, entre Israël et le Liban, que dans les pires scénarios, l'embrasement de la région pourrait débuter.
L'actualité en métropole, et Gabriel Attal a réuni ses ministres pour faire le bilan de la première semaine des Jeux Olympiques de Paris. Le chef du gouvernement démissionnaire a donc réuni les ministres en l'absence d'Emmanuel Macron qui est en vacances au fort de Brégançon et ce n'est pas anodin. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Que ce soit au Club France auprès des supporters ou dans les couloirs de Matignon, Gabriel Attal veut montrer que malgré la trêve olympique, le pouvoir n'est pas totalement vacant. Il a donc réuni une vingtaine de ministres ce mercredi pour une réunion sur les JO au Fauzair de Conseil des ministres. Sans Emmanuel Macron, le Premier ministre démissionnaire se félicite de ses premiers jours d'Olympiade, tant sur le plan sportif que sécuritaire, et met en avant l'action du gouvernement.
Cette réunion, je le disais, était d'abord l'occasion de tirer un bilan très positif de cette première semaine d'épreuve. Nous avons encore bien des défis devant nous. L'intégralité du gouvernement est pleinement aux commandes pour garantir la réussite de ces Jeux olympiques.
La veille déjà, il s'était montré à l'œuvre sur le dossier de la canicule et des perturbations du trafic ferroviaire. Dans l'attente de la nomination de son successeur, Gabriel Attal envoie donc des cartes postales à Emmanuel Macron d'abord, en revendiquant une certaine autonomie, aux Français ensuite, pour montrer qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. Présent sur plusieurs sites olympiques depuis samedi, il compte bien profiter de l'enthousiasme autour des Jeux avant de retourner à la rentrée dans le bain beaucoup plus hostile de l'Assemblée.
Les Jeux olympiques côté résultat, c'est évidemment dans un instant dans la page sport avec 8 médailles la nuit dernière, dont 3 en or.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
En panne de cash, marre du chèque, optez pour le portefeuille électronique CFP. Particulier, échangez de l'argent, remboursez vos amis, payez chez vos commerçants affiliés sans aucun frais. Simple, instantané, sécurisé et 100% gratuit. Commerçant, encaissez à moindre coût depuis votre mobile ou tablette et sans engagement. Si vous n'utilisez pas l'application, elle ne vous coûte rien. CFP, le portefeuille électronique qui vous simplifie la vie, sans frais. Rendez-vous sur www.cfp.nc pour plus d'infos et télécharger l'appli.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport. Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
La page sport exclusivement consacrée encore une fois aux Jeux Olympiques.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
On va revenir sur cette pluie de médailles françaises la nuit dernière pour nous. Mais avant cela, parlons de la déception, il faut le dire, ce matin. Après la cinquième place de Maxime Grousset, le nageur calédonien était en finale du 100 mètres nage libre, Léo Fichou.
Et oui, on pouvait effectivement s'attendre à mieux. Le nageur calédonien avait réalisé le quatrième meilleur temps des demi-finales. Malheureusement, en finale ce matin, même si ça ne s'est pas joué à grand-chose, il n'a pas réussi à créer l'exploit. On l'écoute, Maxime Grousset, juste après la course.
Oui, c'est très serré, mais c'était... Peut-être un peu plus de relâchement, un peu plus... Voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je sais que j'ai voulu faire une course exceptionnelle, mais bon, malheureusement, après, pour accrocher un podium, c'était faisable, je pense. La course, j'ai voulu l'emballer. J'ai voulu tenir et aller jusqu'au bout, mais malheureusement, ça ne tient pas.
À Nouméa, les nageurs s'étaient réunis dans la fanzone du CNC pour suivre la finale de Maxime Grousset. Et parmi les premiers fans du Calédonien, il y avait le président du CTOS, Christophe Dabin, est sûr que Maxime a tout donné.
On va dire que c'était une finale d'anthologie parce que quand vous avez un champion du monde et puis deux champions olympiques dans cette finale, Maxime avait fait, je veux dire, le quatrième temps des demi-finales, mais on savait que ça allait être dur. Le niveau était extrêmement relevé parce que quand vous vous rendez compte un petit peu qu'on bat le record du monde. Donc aujourd'hui, je pense que Maxime a fait le maximum, qu'il n'a pas rougi à sa performance. Mais surtout, je crois qu'il faut retenir une chose, c'est qu'il y a encore d'autres courses. Et que là, on attend Maxime pour arriver à ce que Maxime puisse avoir au moins une médaille.
Et les prochains rendez-vous pour Maxime Grousset, ce sera ce soir avec les séries du 50 mètres nage libre et demain avec les séries du 100 mètres papillon. À noter qu'un autre Calédonien n'y arrive pas en ce moment aux Jeux Olympiques. Nicolas Goyard passe complètement à côté de sa compétition d'IQ Fall en voile. En 4 courses cette nuit, il n'a pas fait mieux que 14e. Il est désormais 15e au classement général.
Allez, on le soutient et on espère que ça ira mieux dans les jours qui viennent. Pendant ce temps-là, la délégation française a tout de même, Léo, glané 8 nouvelles médailles. La France est donc deuxième du classement général.
Effectivement, le camp tricolore est sur un petit nuage bien porté par Léon Marchand. La France a désormais 26 médailles, dont 8 en or. Après sa victoire sur le 400 mètres 4 nages en début de semaine, Léon Marchand a récidivé ce matin. Il a remporté la finale du 200 mètres papillon et la finale du 200 mètres brasse. 3 courses, 3 médailles d'or et 3 records olympiques à la clé. Léon Marchand n'en a pas terminé. Il sera aligné dès ce soir sur les séries du 200 mètres 4 nages. En natation, toujours Anastasia Kirpichnikova a remporté la médaille d'argent sur le 1500 mètres. La Française n'a rien pu faire malheureusement face à l'intouchable américaine Cathy Ledecky. En triathlon, cette fois en triathlon féminin, Cassandre Beaugrand a triomphé hier soir au terme d'une course intense. Elle a remporté la médaille d'or. Malheureusement pour Emma Lombardi, elle s'est battue jusqu'au bout pour le podium et elle a terminé à la 4e place. Chez les hommes, cette fois en triathlon, Léo Bergère décroche la médaille de bronze juste devant un autre Français, Pierre Lecor. Léo Bergère qui, on le rappelle, a passé une partie de son enfance en Nouvelle-Calédonie avec ses parents.
Et puis il y a eu aussi des médailles de bronze, 3 exactement pour la délégation française.
En escrime, d'abord, l'équipe de France masculine de sabre s'est imposée lors de la petite finale face à l'Iran. Une victoire 45 touches à 25 qui leur permet de monter sur la 3e marche du podium. En BMX freestyle, Anthony Jean-Jean a aussi remporté l'argent. Après avoir complètement manqué son premier run, il s'est très bien rattrapé dans le second et a offert donc une médaille d'argent, la première médaille olympique tricolore dans cette discipline. Et puis Maxime Gaël Ngayap Ambou a lui aussi décroché la médaille de bronze. C'est en judo cette fois dans la catégorie des moins de 90 kilos. Il a créé la sensation après une journée au-delà de ses espérances puisqu'il disputait ses premiers Jeux Olympiques.
Et puis les autres résultats de la nuit, notamment du handball, et décidément c'est compliqué pour les Bleus champions olympiques en titre.
Après les deux défaites lors des deux premiers matchs face au Danemark et à la Norvège, les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont arraché le match nul ce matin à la dernière seconde contre l'Égypte. Ils ont égalisé 26 partout. Les Bleus n'ont désormais plus le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour le prochain tour. En football, les féminines se sont imposées 2-1 contre la Nouvelle-Zélande et elles obtiennent leur billet pour le prochain tour du tournoi olympique. Et puis on termine avec du tennis de table. Félix Lebrun s'est qualifié pour les quarts de finale au terme d'un match fou remporté 4-7 à 3 alors qu'il menait 3-7-0. En revanche, l'aventure de son frère Alexis est terminée. Elle a pris fin cette nuit en 8e de finale.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et à l'occasion de ces Jeux, vous le savez, nous jouons aussi sur Radio Rythme Bleu.
De mémoire de jeu avec les stations chez les Pacifiques.
Avec votre carte fidélité, toujours des remises sur le carburant et plein d'autres avantages.
De mémoire de jeu pour gagner chaque jour un bon carburant de 5000 francs grâce à notre partenaire. Vous le savez, on vous pose une question dans le journal du matin et dans ce journal. La question, vous avez jusqu'à 17h pour y répondre. C'est l'heure du tirage au sort. Et dans le journal du soir, vous avez évidemment la réponse à la question et aussi le nom du gagnant. Voici notre question aujourd'hui. Parmi ces athlètes français, quel est le seul à détenir 4 médailles d'or olympiques ? Si c'est Tony Estanguet, vous tapez JO1. Si c'est Nicolas Karabatic, vous tapez JO2. Si c'est Lucien Gaudin, vous tapez JO3. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Vous avez donc jusqu'à 17h pour cela. Le tirage au sort a lieu parmi les bonnes réponses. Et je vous le rappelle, un bon d'essence à gagner de 5000 francs, offert par notre partenaire.
Dans vos stations Shell et Pacifique, gagnez 3 Toyota Hilux, 730 cartes de carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacifique et n'oubliez pas votre carte de fidélité.